Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce temps que tu nous donnes et Seigneur, merci pour l'occasion d'être ici. C'est un grand privilège, Seigneur, d'être avec des frères et sœurs ici à Genève. Nous pensons à tous ceux qui se réunissent de par le monde. Seigneur, nous savons qu'ils sont nombreux, tes enfants, Seigneur, qui veulent t'adorer. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce, pour le salut, Seigneur, en Jésus-Christ, Seigneur, pour ce don merveilleux que tu nous as fait. Seigneur, merci pour le grand privilège aussi que tu nous fais de te servir là où tu nous places. Ici à Genève, là-bas au Togo ou ailleurs. Seigneur, aide-nous à être des instruments efficaces dans tes mains. Nous te prions, Seigneur, que ces paroles puissent trouver une occasion d'encourager nos frères et sœurs ici, dans leur vie, dans leur façon de te servir ici, là où ils vivent, au travail, dans leur famille. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être tous tes ouvriers, tes disciples, qui te suivent et qui partagent autour de eux la bonne nouvelle, l'Évangile. Seigneur, nous te remettons Mango. Et la région de Mango maintenant, Seigneur, nous te prions pour l'œuvre là-bas. Nous savons, Seigneur, que le combat est rude. Comme partout, Seigneur, l'ennemi n'est pas content de voir l'Évangile qui progresse. Et nous te prions, Seigneur, que vraiment des vies soient transformées. Je ne prie pas, Seigneur, pour des grandes églises, pour des choses en apparence parfaites, mais pour des cœurs, Seigneur, transformés, vraiment. Nous prions, Seigneur, que tu puisses susciter des nouveaux leaders, des hommes et des femmes, Seigneur, qui peuvent vraiment s'engager dans le ministère pour toi, Seigneur. Bénis maintenant ce temps où nous allons ouvrir ta parole et étudier ensemble un texte. Que tu puisses vraiment nous parler, malgré la faiblesse des mots, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse vraiment parler dans les cœurs et encourager chacun ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça va? C'est peut-être un peu long, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il faut faire une pause, si vous voulez vous lever. En tout cas, la prédication ne sera pas trop longue. John m'a dit que ici, c'est une église où on aime les prédications. Alors, quand même, je dois faire une prédication. Hein. Mais on aime la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Et on va regarder rapidement un petit morceau de l'histoire de Jacob, Joseph et ses frères. Dans Genèse chapitre 37, je vais lire le texte simplement jusqu'au verset 11 et puis après on ira un petit peu sur un survol jusqu'à la fin du chapitre. Le livre de Genèse au chapitre 37. Vous êtes prêts? Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Verset 5, Joseph avait eu un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. C'est un texte qu'on a étudié à Mango avec les frères là-bas, les frères et sœurs, et aussi à la prison. Un texte où on voit le péché qui grandit, le péché qui s'installe. Le titre de la prédication, c'était « La spirale du péché face à la grâce de Dieu. Qui va gagner ?» qui va gagner. On va regarder cette première partie du texte. C'est le premier point, des versets 1 jusqu'au verset 11. On voit d'abord le peuple de Dieu qui est dans la haine. On voit qu'à la fin du verset, on voit que vraiment, verset 11, on voit que la situation est pas bonne. Il y a vraiment une grande haine entre Jacob, plutôt entre Joseph et les autres fils de Jacob. Pourquoi cette grande haine est venue? D'abord, le premier responsable, c'est certainement Jacob. Pourquoi Jacob? Parce que Jacob fait preuve de favoritisme envers Joseph. Et les autres frères sont jaloux. Je ne sais pas si ça vous rappelle un peu quelque chose dans l'histoire de la vie de Jacob. Mais lui-même a vécu ça avec sa maman et son autre frère. Sa maman a préféré Jacob, a eu du favoritisme sur Jacob plutôt que Ésaü, son frère jumeau. Jacob refait la même chose et c'est Joseph qu'il préfère le plus. Parce qu'il l'a eu de sa femme, Rachel. Quand on est en Afrique, dans le contexte de la polygamie, c'est toujours aussi une occasion de montrer combien la polygamie est une source de tension dans les familles, n'est-ce pas? Et aussi entre les enfants, non seulement entre les femmes, mais aussi entre les enfants. Et Jacob continue à faire du favoritisme comme ça envers Joseph. Il lui offre une tunique. Et j'ai étudié un peu plus le sens de cette tunique. Ce n'était pas juste le fait que Joseph ait reçu un bel habit et les autres n'ont pas eu ce bel habit. Bien sûr, il y a ça en soi. Mais il y a aussi le sens derrière de la tunique. Ce n'était pas une tunique qu'on offrait à n'importe qui. C'était un peu comme une tunique pour désigner l'héritier, le choisi. Celui qui avait cette tunique, c'était une tunique avec souvent des manches qui descendaient plus tôt, il n'avait plus les services domestiques à faire. Ce n'est pas lui qui devait aller chercher l'eau. Ce n'est pas lui qui, comme vous le voyez, était en train d'aller garder les moutons avec ses frères. Vraiment, les actions de Jacob ont été vraiment la racine de ces problèmes qui sont apparus entre Joseph et ses frères. Et les frères s'enfoncent dans cette jalousie et dans cette haine. On voit que plus le texte avance, plus on voit la haine qui grandit. Au verset 4, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié parce que son père préférait Joseph. Et puis, verset 5, jusqu'à la suite, on voit qu'avec les rêves que Joseph a, cette haine ne fait que grandir. Et à 4 reprises, on voit qu'il est question de cette haine, de cette envie qu'ils avaient contre lui. Cette haine vraiment grandit. Et puis il y a un troisième problème. Alors, il peut être moindre, on n'était pas d'accord avec ma femme quand on avait discuté là-dessus, mais j'ai quand même cru voir dans l'attitude de Joseph peut-être un peu de vanité. Il voit que ce rêve qu'il raconte à ses frères et ses sœurs, il voit que ça leur donne de la haine, il voit que ça produit vraiment du mauvais résultat. Il a encore un deuxième rêve et il continue à parler. Peut-être ce comportement-là aussi montre un peu de vanité de la part de Joseph. En tout cas, c'est une famille qui va mal. C'est assez clair. Et on voit que le comportement de l'un influence le comportement de l'autre. On voit que le comportement de Jacob va avoir des influences entre leurs frères et sœurs, entre leurs frères en l'occurrence. Et ça nous amène à nous poser la question aussi dans nos vies à nous. Dans quelle attitude, comportement de notre vie nous entraînons des problèmes peut-être chez les autres? Comme Jacob a pu entraîner des problèmes dans la vie de ses frères et ses sœurs. Il y a un autre point aussi, un autre point aussi important, c'est de voir un peu le schéma de reproduction qu'il y a entre les parents et les enfants. Jacob reproduit ce qu'il a vu chez sa maman. Lui-même fait preuve de favoritisme. Et c'est aussi une exhortation pour nous de savoir que, attention, nos enfants nous voient. Nos enfants nous analysent et très certainement peuvent reproduire ces problèmes qu'ils voient chez nous. En tout cas, dans le peuple de Dieu, les choses vont mal. On est dans le premier livre de la Bible, on est au début de la parole de Dieu, de l'histoire du salut, de l'histoire du peuple de Dieu. Et on peut se souvenir un peu de ces paroles de Genèse chapitre 12 qui ont été données à Abraham, au verset 2. Il lui dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour beaucoup. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Est-ce qu'on a l'impression que cette promesse est en train de se réaliser ? Quand on voit l'état de la famille de Jacob, quand on voit la division qu'il y a entre ses frères, la haine, c'est le peuple que Dieu a choisi, le peuple sur lequel il a placé cette alliance. Et on voit l'état de ce peuple. On voit le péché qui s'installe, qui grandit, qui est en train de tourner. Vous connaissez ces spirales anti-moustiques ? Vous savez, ces spirales que vous allumez d'un côté, ça tourne comme ça. On utilise ça beaucoup chez nous. Vous n'utilisez pas ça chez vous ? Hein, c'est comme cette spirale qui commence et qui consume tout doucement et qui va vous bouffer entièrement. Regardez encore, même au chapitre 35, juste deux chapitres avant, ce que Dieu dit à Jacob lui-même. Il lui dit au verset 10, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Le père du peuple d'Israël. Et il lui donna donc le nom d'Israël. Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie-toi. Une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Et puis quand on arrive encore après le chapitre 37 et on voit cette histoire et on se dit, mais Dieu, est-ce que tu es sûr que tu as choisi les bonnes personnes ? Est-ce que cette promesse que tu as donnée va pouvoir se réaliser avec des gens qui sont dans une telle famille ? C'est la catastrophe. Et ça va aller de mal en pire. Et on peut se reposer cette question après. La deuxième partie, c'est le peuple de Dieu dans le crime. La première, c'était le peuple de Dieu dans la haine. Maintenant, on passe au crime. À partir du verset 12, jusque presque à la fin du chapitre, verset 32. Et comme on a déjà été un peu long, je vais simplement résumer ce grand passage. Mais Jacob demande à Joseph, qui bien sûr est resté avec lui, lui il n'a pas besoin d'aller garder les moutons, il est resté avec lui. Il l'envoie pour aller voir ce que ses frères vont faire. Certainement, ça va encore donner plus de problèmes et de haine entre eux. Ah, voilà l'espion qui arrive pour nous surveiller, disent ses frères. Finalement, Joseph retrouve ses frères. Après un certain périple qu'on voit dans les versets 14, 15, 16, 17. Et quand les frères voient Joseph arriver, ils se disent au verset 19, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Verset 20, « Venez, maintenant, tuons-le, jetons-le dans une de ces citernes. » Ils sont en train simplement de laisser cette haine qui a grandi, qui s'est vraiment installée contre leurs frères, se manifester par le crime. Ils vont assouvir leur désir vraiment de vengeance. Et on voit Ruben qui intervient, qui dit non, on va le jeter dans la citerne. Et puis ils le mettent dans la citerne. Ruben avait l'espoir de le libérer après quand même. Et finalement Judas propose de le vendre à des Madianites qui passaient par là et il est vendu comme esclave. Il est vendu comme la marchandise qu'on va aller vendre ailleurs pour travailler. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite ? Qu'est-ce qu'ils vont dire à leur père ? Ils tuent un animal, ils mettent le sang sur le bel habit et ils le ramènent à leur père. Voilà où est la famille de Dieu, le peuple de Dieu, les 12 tribus, les ancêtres des 12 tribus que Dieu a choisis. Non seulement dans la haine, mais encore maintenant dans le crime. Nous, aujourd'hui, on a la fin de l'histoire. On a tout le livre dans les mains, donc on est reconnaissant à notre Dieu, on peut dire « Alléluia ». Mais quand on voit ça, on se dit, mais Seigneur, quel peuple tu as choisi ? Mais c'est pourri. Le péché l'est pourri complètement. Ils ont assouvi leur haine. Ça m'a fait penser à ce passage de Romains chapitre 12. On a beaucoup partagé ce texte avec certains frères au Togo. Romains chapitre 12, verset 19. « Ne vous vengez point vous-même. » Quelle différence, quelle opposition il y a entre la vie de ses frères et cette réalité qui nous est dit dans Romains chapitre 12. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Le peuple de Dieu n'a pas réussi. Le peuple de Dieu s'enfonce dans le péché. Et aujourd'hui, on voit ces versets dans la fin de la Bible, n'est-ce pas ? Quand Jésus-Christ est venu, quand il a fait son œuvre à la croix, quand il a subi la condamnation que nous méritions. Il est mort à notre place. Et j'aime beaucoup ces versets qui sont décrits dans un des livres dont on a parlé, Le chemin du calvaire, Galates 2, chapitre 20, qui nous dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. C'est le seul chemin pour réussir à pouvoir avaler des paroles comme ce qu'on a dit, « Ne vous vengez point vous-même. » L'homme livré à lui-même, l'homme sans Christ à l'intérieur, ne peut pas réussir à faire cela. Parce que ma chair ne veut pas rendre le bien pour le mal. Timothée d'Aiglon ne veut pas rendre le bien pour le mal. Mais c'est le chemin du brisement, c'est le chemin de la mort à soi-même que Jésus-Christ nous appelle à suivre, à le suivre lui-même par ce chemin où lui, il est passé. Où quand on est brisé, quand on est mort avec lui, il vient vivre en nous. Et il vient manifester sa vie en nous. Et il vient nous relever. Et il vient nous donner sa paix qui dépasse ces circonstances que l'on peut vivre. C'est sa grâce. C'est sa grâce qui gagne. On peut déjà le dire, on arrive presque à la fin, c'est sa grâce qui gagne. Face à la spirale du péché, la grâce de Dieu remporte largement la bataille. Les frères de Joseph ont agi. Ils avaient beaucoup d'excuses pour faire leur péché. Ils ont eu beaucoup de haine qui a grandi, justifiée. Honnêtement, on peut les comprendre, les frères de Joseph. On voit ce frère qui a tout et nous qui n'avons rien, c'est pas juste. Cette haine, quelque part, est justifiée aux yeux des hommes. On peut la comprendre. Mais leur péché, le péché des autres, ton péché n'est pas une excuse pour mon péché. Jamais. Ton péché n'est pas une excuse pour mon péché et mon péché n'en est pas une pour le tien. Alors dans quelle situation de votre vie ? Et je peux regarder ma vie et je peux vous donner beaucoup de réponses. Dans quelle situation de péché est-ce qu'on se trouve ? Parce qu'on se trouve des excuses, on y reste parce qu'on se trouve des excuses. Oui, mais ceci, il y a ceci et cela, donc j'ai pas le choix, je continue. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses pour ton péché. Et on continue dans la dernière partie. Le peuple de Dieu dans le désespoir. Et on retourne dans Genèse chapitre 37, à la toute fin du chapitre. On voit dans quel état se retrouve le peuple de Dieu. Jacob, verset 33, reconnut cette tunique que ses frères lui ont ramenée. C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces, verset 34, et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts » et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Voilà la fin du chapitre. Joseph est en train d'être vendu comme esclave et Jacob est dans les larmes. Sa vie ne se résume que par des larmes. Il ne veut pas être consolé, nous dit le texte. Il dit « Je vais descendre dans le séjour des morts avec des larmes ». Le peuple que Dieu a choisi, vous imaginez un peu. Encore une fois, je redis la même chose. Ce peuple à qui Dieu a fait la promesse, déjà à Abraham en Genèse chapitre 12. Ensuite à Jacob, Genèse chapitre 35, il lui renouvelle cela. Dit, Une multitude de nations viendront de toi. Je ferai de toi un grand peuple. Et on a ce Jacob, le père, Israël, qui est appelé Israël maintenant, qui est dans le désespoir, qui veut descendre dans le séjour des morts, plein de larmes. Aujourd'hui, on connaît la fin de l'histoire. On peut dire, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour ce peuple. On peut voir comment Joseph a été utilisé, finalement, pour délivrer son peuple. Et vous pouvez lire vous-même l'histoire de Joseph dans les chapitres qui suivent. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire de la rédemption que Dieu va offrir à son peuple. Et c'est une illustration de cette rédemption qu'il montre tout au travers de sa parole, jusqu'à la montrer de manière pleine et entière avec Jésus-Christ. Dieu n'a pas choisi un peuple tout beau, tout parfait, sans défaut, sans péché, mais il a choisi un peuple dans lequel il a montré que le salut ne peut pas venir avec lui. Ce n'est pas les qualités du peuple, ce n'est pas vos qualités qui vous sauvent. Ce n'est pas les qualités, la perfection de ce peuple, leur unité, c'était pas une belle famille unie dans laquelle les frères s'aimaient, ils aimaient leurs sœurs, ils aimaient leurs parents. Oh non, c'était une famille divisée. C'était une famille dans laquelle il y avait beaucoup de problèmes. Regardez la suite de la parole de Dieu, même des tribus se sont faites la guerre entre elles. Le royaume a été divisé. Tout au long de l'histoire de la parole de Dieu, on voit une chose. Le peuple de Dieu a besoin d'un rédempteur pour son salut. S'il n'y a pas rachat des péchés, s'il n'y a pas rédemption, il n'y a aucun espoir. Et c'est pareil pour nos vies. Dans cette situation, on voit beaucoup de péchés. Et en lisant, en voyant ce péché abonder, on peut penser, mais la grâce de Dieu, comme le dit Paul dans Romains chapitre 5, la grâce de Dieu a surabondé par-dessus cela et nous donne une nouvelle espérance, une nouvelle vie. La grâce de Dieu nous conduit là-dedans. Le Seigneur nous conduit par sa grâce. Et j'aimerais simplement, pour terminer, relire ces paroles de Romains chapitre 3, verset 23. Reposons cette question ensemble. Qui gagne entre la spirale du péché ? Peut-être dans vos vies, vous connaissez des situations comme ça, des situations catastrophiques, des situations où vous-même, peut-être, vous êtes dans le péché. Des situations où vos familles ne vont pas bien, des situations difficiles pour ceux qui vous entourent. Jésus offre le salut, Jésus offre la rédemption, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors je prie que ce soit vraiment une réalité pour vos vies, que vous puissiez encore, toujours, tous les jours, vous identifier à Jésus-Christ, comprendre encore que ce n'est pas vos œuvres qui vont vous sauver, comprendre que c'est par sa grâce que vous êtes sauvés, comprendre quelle est la grandeur de cette grâce pour vous. En comprenant la grandeur de votre péché, vous voyez quel est le trou à combler par cette grâce, et il est infini, il est énorme, pour arriver à la perfection de Dieu. Réjouissons-nous ensemble, je veux dire alléluia, gloire à Dieu pour ce salut qu'il nous donne, gloire à Dieu pour ce message de l'évangile qui nous est présenté dans la Bible, depuis le début jusqu'à la fin, le besoin d'un sauveur. Et aujourd'hui, ce sauveur, c'est Jésus, qui est une réalité dans nos vies. Alors on va simplement prier pour terminer. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour le salut que tu nous as offert en Jésus-Christ. Nous voulons vraiment te remercier pour cette rédemption que tu as toi-même faite dans nos vies. Seigneur, tu connais la vie de chaque personne ici. Je ne connais pas, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de chacun, je ne sais pas. Mais Seigneur, je sais que le cœur de l'homme peut amener à des choses comme on a vu dans Genèse 37. Et je sais que nous tous, nous avons besoin de toi pour nous relever, pour nous donner une vie nouvelle, pour nous aider, Seigneur, dans le combat, à marcher à ta suite, Seigneur, pour nous aider, Seigneur, à nous dépouiller de notre vieille nature et à revêtir, Seigneur, l'homme nouveau qui est en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour que cette Église puisse être une expression vivante de cela, que chaque membre, Seigneur, puisse en être un témoignage. Bénis, Seigneur, ceux qui ne sont pas là, ceux qui écouteront aussi une retransmission. Seigneur, que tu puisses les encourager. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.